Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, créateurs d'imaginaires inattendus, autrices de fictions bien réelles, auteurs de faits surpassant l'imagination, bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse du jeudi, consacrée, vous le savez, la plupart du temps à la création. Aujourd'hui, il sera question du Salon du Livre d'Aubenas, organisé par le Cercle des auteurs ardéchois, qui se tiendra ce week-end à l'espace Liénart à Aubenas. Mais pourquoi ce lieu excentré ? Je vous poserai la question tout à l'heure. Je poserai donc la question à mes invités qui sont Alain d'Autriche, directeur du Salon d'Aubenas, secrétaire du Cercle des auteurs ardéchois, et auteur lui-même, bonjour.
Bonjour.
Pierre-Antoine Courrouble, vous êtes président du Cercle des auteurs ardéchois et de sa confrérie, auteur également et plein d'autres casquettes, bonjour.
Bonjour.
On aura aussi par téléphone tout à l'heure Marilyn Elk, qui est autrice, qui vit à Montréal et qui participe pour la première fois au Salon d'Aubenas. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Nous allons donc parler imaginaire, fiction, qui se nourrissent évidemment d'éléments du réel, agencer de manière à ouvrir un espace de résonance en chacun de nous. On pourrait par exemple imaginer cette petite histoire à la fois locale, régionale, mondiale, voire cosmique, une synchronie comme disent certains. Il était une fois dans une petite région... Appelons-la l'Alvergne des Alpes, dans un monde malade, où une espèce parmi 10 à 20 millions détruisait tout, une femme politique parmi d'autres, qui militait pour un avenir meilleur et moins de destruction, qui s'appelait Michel Mewivasi. Cette femme mourait soudain, et au même moment, on apprenait que cette même région décrochait le gros lot de la destruction festive et ludique des montagnes, qu'on appelait alors J.O. d'hiver. J.O., hein, pas G.O., la Terre, malheureusement. Et tout cela alors que, tenez-vous bien, le grand événement politique mondial amené à réfléchir à la protection de ce monde malade était en fait dirigé par l'un des destructeurs notables. Il s'appelait Sultan al-Jaber. C'est un vrai conte des mille et une nuits que je vous raconte là. Il produisait une substance qui participait au problème dans un pays premier producteur de cette substance et il en profitait pour faire des affaires, pour produire encore plus de cette substance qu'il s'appelait la paix drôle. Oui, c'est très drôle. C'est une grosse farce. En fait, elle est un peu nulle. La réalité fait encore plus froid dans le dos. Michel Rivasi, femme politique et militante écologiste de la Drôme, est morte. Au même moment, la région Auvergne-Rhône-Alpes décroche les JO d'hiver 2030. Et au même moment, le président émirati de la conférence climat Sultan al-Jaber profite de rencontres avec les représentants de certains États censés porter sur le climat pour conclure des marchés pour ses propres entreprises, notamment dans le domaine des énergies fossiles, car l'intéressé est aussi PDG de la principale compagnie pétrolière émirati. Moi, je me pose la question, vous, auteur, autrice qui êtes ici invité, est-ce que vous seriez capable d'écrire un scénario aussi pervers ?
Oh ! Alors, oui. Ça dépend de la définition de la perversité.
Eh bien, oui, ben voilà. Alors, nous allons en parler, oui. Nous allons en parler tout à l'heure, enfin, peut-être. Moi, ça me laisse en sidération. Mais bon, voyons dans le reste des infos locales ce qui va nourrir cet imaginaire. Car faut-il en rire ? Rire, peut-être. Ça peut-être nous sauver. En tout cas, faire quelque chose de rigolo de tout ça, le transformer pour éviter de rester dans la sidération. Pourquoi pas grâce au clown ? Ce samedi, à Jaujac, un stage clown proposé par Samuel Tarlet, qui est comédien dans l'excellente compagnie Marzouk Machine, propose donc un stage de clown. Et voici le programme, ou en tout cas l'intention du stage. Suivre ses élans plutôt que se censurer, exprimer la démesure, jouer de ses défauts. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons la preuve maintenant que le sultan al-Jaber a déjà suivi ce stage de clown. Les plus puissants ont réussi, alors pourquoi pas vous, à Jaujac, ce samedi, entre 10h et 13h et 14h et 17h. La salle reste à définir. Si vous êtes intéressé, appelez Samuel au 06 99 29 04 54. Allez, on continue dans l'imaginaire. Ce soir à 19h30 à la médiathèque de Saint-Paul-le-Jeune, soirée contes éclatés avec cette ode poétique et forcément politique de Gaston Coutet, poète libertaire et pacifiste du siècle dernier. Cette ode s'appelle « Je mourrons ben sans qu'on nous tue ». Alors Gaston Coutet a la particularité d'écrire, enfin il avait la particularité d'écrire dans un français magnifique, mais aussi en patois de la Beauce. La forme du spectacle est assez inédite pour ce type de répertoire qui mêle chant, texte et danse contemporaine. Des textes qui résonnent avec notre actualité, qui font la part belle aux petites gens oubliés de l'histoire et à la nature. Personnage vibrant qui traverse avec intensité toute son œuvre. C'est donc ce soir à 19h30 à la médiathèque de Saint-Paul-le-Jeune. L'entrée est libre, renseignements et réservations au 06 08 87 22 53. Oui, création locale, immergée dans un territoire spécifique, mais qui a une portée presque universelle, où on pourrait dire, à tout le moins, pour rester un petit peu humble, humanicelle, je ne sais pas. La version musique, c'est le folk, qui est bien présent, notamment chez nous en Ardèche. Il y a qu'à voir hein, sur les ondes de fréquence 7, on a deux émissions folk depuis cette année, le lundi à 19h, qui sont en alternance, Tu danses et l'écho du parquet. Et les balles folk donc, qui se portent bien. Il y en aura un ce samedi 2 décembre à la Baume avec le groupe Castanea y Vonovel. Et Vonovel, c'est un duo de musiciens biterrois, donc de Béziers, qui puisent dans les chansons et les airs à danser dans les répertoires traditionnels occitans. Alors, pour faire danser le plus de monde possible, il mêle le son de la vielle à roue, de l'accordéon, des chants et des rythmes bien frappés. Bref, tout ça pour un bal pop, un bal populaire qui aura lieu donc à la Baume, à la salle du Récatadou, ce samedi 2 décembre à 21h, et il vous en coûtera 10 euros. Allez, on reste dans la création musicale locale, mais cette fois ardéchoise.
Papa, je ne veux plus jouer tout seul, tu sais, à force de me laisser, j'apprendrai à vivre sans toi, je te laisserai dériver sans moi.
Tu m'as montré l'Afrique, mais seulement sur une carte, m'as dit ne jure pas, ou je te mets une tarte.
Pourtant dans ta bouche, c'est que tes gros mots. Je préfère que tu m'emmènes dans ton sac à dos. S'il te plaît, quand t'es là, t'es là. Je ne veux pas d'un papa qui aboie. Et papa. C'est vachement bien quand tu t'occupes de moi. C'est vachement mieux quand tu t'occupes de moi. Ouvre ton cœur et lâche prise, papa.
Papa du groupe Planète Bolingo, une quasi-nouveauté de ce printemps dans la playlist. Il se passe des choses incroyables ici en studio. Moi j'ai chaud, ça me donne chaud. Hey papa, ce que l'on vit dans son enfance influence tellement les créateurs. On écrit avec peut-être les mille couches de vie qui s'accumulent et se mêlent en nous. Enfin peut-être, je ne sais pas, je poserai la question, encore des questions pour mes invités que je ne pose pas, hein, puisque, mais ça y est, on est dans le sujet. Notre sujet du jour, c'est le Salon du Livre d'Aubenas, organisé par le Cercle des auteurs ardéchois, qui se tient donc ce week-end à l'espace Liénart. Donc on en parle avec mes invités à l'Inde, d'Autriche. Vous êtes maintenant retraité de l'éducation nationale. Vous avez enseigné pendant 20 ans auprès d'enfants sourds. Vous êtes auteur, correcteur, professionnel de livres, donc fiction, mais aussi thèse. Vous avez écrit une pièce de théâtre, deux romans, Rouge impair et Passe. Et vous reprendrez bien un zeste d'éternité. Vous êtes en pleine écriture, paraît-il, de votre troisième roman.
Oui.
Et puis pour couronner le tout, vous êtes secrétaire du Cercle des auteurs ardéchois et directeur du Salon d'Aubenas. Et puis, à mes côtés également, donc, Pierre-Antoine Courrouble. Alors, j'ai réduit, hein, parce que c'était trop la liste. Vous êtes enseignant, président du Cercle des auteurs ardéchois et de sa confrérie. Vous allez nous en parler, cette confrérie, qu'est-ce que c'est ? Correspondant de presse, auteur de multiples ouvrages. Et puis, par téléphone, donc toujours, Marilyn Elk. Vous êtes auteur, autrice, habitante à Montréal, en Vivarais, et infirmière. Vous avez écrit trois livres, dont deux ont été publiés. Didyme, un essai sur Saint-Jean-Baptiste et Jésus, où vous imaginez qu'ils étaient en réalité frères jumeaux. Et puis L'idole sacrée de Nazca, qui vient de paraître cet été, où vous racontez votre aventure péruvienne à la rencontre des fameuses momies de Nazca, dites non humaines. On en parlera sans doute dans un instant, mais d'abord, si vous le voulez bien, plantons le décor. Le Cercle des auteurs ardéchois, qu'est-ce que c'est ?
Alors à la base, c'est huit copains réunis autour d'une table qui se côtoyaient dans des salons littéraires, on est dans les années 2000, et qui se sont dit, tiens, il faudrait qu'on s'organise pour se sentir moins seul. Donc ils ont créé une association en 2005. Alors moi je l'ai intégré en 2008 et à l'époque je puis vous dire que le CA se superposait au bureau et se superposait à l'Assemblée Générale, on était 8 quoi. Donc c'était un cercle plutôt fermé. En 2014, donc c'est Michel Rioux qui l'avait créé, l'historien ardéchois, qui est toujours président d'honneur de l'association. En 2012, on a créé la confrérie de la plume ardéchoise qui avait pour objectif justement d'ouvrir, pour que le cercle ne soit pas trop fermé, d'ouvrir à d'autres qui soient liés à l'écriture dans l'imprimerie, l'édition, l'illustration, la photographie, et être des auteurs qui n'étaient pas membres du cercle. Il y a eu une mue, l'association a évolué, elle s'est ouverte. Au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. On est 46 membres, plus une trentaine dans la confrérie, qui ne sont pas donc membres à proprement parler du cercle, mais qui ont accepté de se faire introniser dans la confrérie en raison de leur mérite. Donc, et nous avons un réseau, une base de données de 549 auteurs régionalement. Donc on organise des salons, on organise des soirées littéraires, on crée une bibliothèque dans le Château de Joyeuse, une bibliothèque du livre ardéchois et du livre ancien ardéchois.
Puisque vous êtes installé à Joyeuse.
Oui, au Château de Joyeuse. Et nous avons également des animations, on fait des chroniques régulièrement l'été, les plumes d'été dans le journal La Tribune, on fait différentes choses. Quoi. On anime, on essaye de faire vivre. Et là, on mène une action, on en parlera tout à l'heure, avec les jeunes.
Mmh. Ouais, très, très, très intéressante. Mais vous avez piqué ma curiosité, là, en parlant de la confrérie. Donc la confrérie, si j'ai bien compris, ce ne sont pas seulement des auteurs, mais tous ceux qui tournent autour du livre,
hein,
étendu. Cette confrérie avec son solennel, ses titres, ses costumes, lettres majuscules.
On l'a fait à la sauce ardéchoise, donc on est très décontracté. On met de l'humour, on a un chant mélodieux qui est notre hymne national sur l'air du temps des cerises, mais réécrit par Michel Rioux. On a parmi dans la confrérie des élus, des maires, le maire d'Aubenas notamment, le maire du Teil. On a des journalistes, Patrick Cortès qui a été à un moment le responsable d'agence du Dauphiné, Jean-Claude Bourret, pour ne pas le citer, qui préside cette édition d'Aubenas, il est membre de la confrérie, des musiciens, Gilles Dreux, Paganelli, Paganelli est également dans le cercle, mm-hmm. Roland Ours, qui est un dessinateur, on a donc des libraires, des éditeurs, des photographes, on essaye de créer du lien entre les différentes formes d'écriture, en fait.
Mm-hmm. Du lien et oui, alors parlons-en tout de suite du lien. Alors quel dynamisme ? Je disais du lien. Enfin, je disais à moi-même sans l'avoir oralisé. Excusez-moi. du lien avec les plus jeunes aussi pour essayer d'étendre.
Oui, alors ça c'est une action qu'on a mis en place à Aubenas au départ, avant même le salon, en créant un lien avec les écoles. On faisait des concours de poésie qu'on récompensait avec des ouvrages. Puis ça a évolué quand le salon est né, sous la houlette de mon ami Alain qui est en face de moi, qui est directeur du salon, qui était l'initiateur de cette manifestation qui en est à sa 4e édition.
Alain d'Autriche.
Et donc on a toujours voulu, parce qu'on nous reprochait un peu les écrivains d'être parfois même des élacants, enfin des vieux autour d'une table, alors que non, l'écriture elle doit être vivante, elle doit toucher les jeunes générations. Donc on a organisé des concours d'écriture, concours de poésie, concours d'haïku, concours de nouvelles, concours de romans. Lors de la fameuse année 2020 où il y a eu le Covid, on a permis à des jeunes d'écrire des livres qui ont été ensuite publiés, édités. Et c'est des vrais éditeurs. Par exemple, on a Mathilde Stepa qui a été à l'édition 2020. Son ouvrage avait été publié par Le Cercle, puis ça a été relié par les éditions La Calade. Sur Priva, où nous organisons également des salons, on a des jeunes qui ont été édités par les éditions du Sac à dos et qui vont être ce week-end au salon d'Aubenas. Et des jeunes, on parlait de la confrérie, on a intronisé cet été au Château de Joyeuse Elena Snow, qui est une jeune autrice ou auteure, je ne sais pas comment on dit moi non plus, de 16 ans. Donc pour montrer qu'on joue la carte de cette ouverture à la jeunesse pour leur communiquer la passion de l'écriture et de la lecture, qui est un voyage de l'esprit dans l'espace et le temps.
Dans l'espace et le temps, ouais, précisément, puisque donc cette année, il y a un concours de nouvelles donc, qui a été lancé auprès de certaines écoles albenaciennes. Vous allez nous dire, Alain d'Autriche, lesquelles et combien de... Non, en tout cas, quelles écoles, quel type d'école, quel type de classe et quel type d'élèves ont participé à ce concours sur le thème, donc d'où le lien, Je voyage dans l'espace.
Dans le temps. Mais je vais laisser
dans le temps, pardon. Je voyage dans le temps.
Le président, vous citez tout ça pour les écoles.
Alors, les écoles, il y a quatre classes d'Aubenas. Il y en a Saint-Privat, il y en a Saint-Félicien, donc dans le Nord Ardèche. Il y a Saint-Just d'Ardèche. Donc, on est à peu près, il y a 80 copies, quoi, qui nous sont arrivées. Et ça n'a pas été simple pour le jury de départager et de donner des notes, parce que nous récompensons les lauréats par des chèques livres. Donc on consacre 1000 euros de livres qui ont honoré les enfants. Donc sur les 80, il y en a quasiment un peu plus de la moitié qui ont un chèque. Voilà. Qui peut aller jusqu'à 50 euros. 50, 40, 30, 20, 10 euros.
Puisque donc vous allez récompenser précisément lors de ce salon du livre, samedi, de 15 à 16 heures, vous allez récompenser donc les lauréats de ce concours. Alain,
oui.
Un mot sur ce concours.
Et ben, comme disait Pierre-Antoine, il y a eu beaucoup de... Pardon, de réponse. Alors, je me proposais de vous lire trois extraits alors, de CE2 pour vous dire comme quoi l'imagination n'a pas d'âge et que, comme disait Pierre-Antoine, ça a été difficile de noter parce que il y avait quand même quelques hors-sujets, mais de temps en temps, il y avait quand même de bonnes productions. Alors là, je prends un extrait en plein milieu, hein, parce que ça, c'est des choses, des nouvelles qui font en 5 pages. Alors, j'eus à peine le temps de passer, qu'elle se referma sur moi, la porte, et je vis une armée de zombies et un tonneau avec une planche en bois. Je me demandais à quoi ça pouvait m'aider de tuer les zombies, puis je vis un escalier grand comme une maison, mais il y avait une porte dans l'escalier. J'essayais de faire une catapulte, mais tout à coup, je vis qu'il y avait une épée dans le tonneau, voilà. Par exemple,
c'est un élève de quel...
De CE2. Voilà, qui s'appelle Lilou, donc c'est une fille, je suppose. Le voyage dans le temps. Là, j'ai un autre extrait d'un CE2 aussi, enfin une CE2, Anaïs. Quel est votre problème, mademoiselle ? Me demanda-t-il. Puis j'ai répondu pour qu'il comprenne. Nous avons beaucoup parlé et il a terminé pour me dire d'aller dans un laboratoire, donc j'y suis allé. J'ai toqué à la porte. Un homme de 95 ans m'a ouvert. Il m'a demandé si j'allais bien. Et si j'étais bien Anaïs, je lui ai dit oui, il m'a entraîné dans son laboratoire, enfin une pièce qu'il appelait un laboratoire, il y avait des fioles, des machines, des trucs bizarres, j'ai même pas remarqué qu'il m'expliquait quelque chose, comme quoi il avait fabriqué une machine à remonter dans le temps. Voilà, puis alors il se passe des tas de choses. Une troisième qui s'appelle Mia, qui est aussi CE2, qui apparemment aime bien l'Olympe. Et là, je me suis retrouvé avec plein de dieux et de déesses, et là, c'était trop bien. J'en ai profité pour leur poser quelques questions, comme à Zeus, je lui ai demandé quand il y aura un orage, et puis à Poséidon, quand il y aura une tempête sur la mer, et puis à Héras, est-ce que j'allais avoir bientôt un amoureux ? J'étais d'ailleurs pas du tout contente, vous vous imaginez, d'apprendre que j'allais avoir un amoureux. Bon, ne parlons plus de ça. Ah oui, j'avais enfin demandé à Aphrodite, est-ce que je serai belle plus tard ?
Bravo.
Voilà, comme quoi l'imagination n'a pas de limite et pas d'âge.
Ah mais oui, surtout pas. C'est même peut-être bien au contraire. On l'inhibe peut-être avec l'âge.
Oui, et puis là bah, de voir que des CE2 bah, s'attaquent sur des grands formats comme ça, sur 5-6 pages, parce qu'il y a aussi parfois des collégiens qui font 4 lignes. Ils voyagent dans le temps, mais c'est bref. Et ben, là, ça fait plaisir, puis de voir, bon, bec. C'est des élèves qui se sont appliqués, c'est bien écrit. Hein. Voilà, il y a quelques fautes, mais pas trop. Voilà. Et puis, mais c'est même illustré, en plus, il y a des dessins. Ben, je vous dis, moi, chapeau, quoi, voilà.
Bravo, ouais, bravo. Donc ça, c'est un des temps forts de ce Salon du Livre. Est-ce que, Alain, vous pouvez nous dire davantage hein, ce qui va se passer lors de ce salon des 2 et 3 décembre, c'est-à-dire samedi, dimanche?
Voilà, oui, donc il y a 78 participants cette année, donc c'est la 4e édition, comme on l'a dit. Il y a des peintres, il y a 4 peintres, il y a des éditeurs qui seront dans l'entrée de l'espace Lénard. Espace Lénard qui d'ailleurs, jadis, était une imprimerie, comme quoi on y revient. Il y aura donc des lectures d'auteurs dans une pièce à part. Il y aura bah, toute la journée des dédicaces, évidemment, entre 10h et 18h samedi et entre 10h et 17h dimanche. Il y aura l'intronisation samedi de Alice Lacour, qu'on ne présente plus. Si, bon, alors on la présente. C'est une auteure, voilà, qui a pas mal de livres à son actif, voilà, qui est de Vauguet. Après, on aura un vin d'honneur. Et puis, à 18h, donc samedi 2, nous aurons une conférence avec
Alors, une conférence en diffusé, en différé, enfin, comment on dit,
par téléphone, parce que...
Audio, avec Jean-Claude Bourret, qui ne peut pas être là, car il a été opéré du genou, et son médecin s'est opposé à ce qu'il vienne à Aubenas.
Oui, on n'a pas de chance avec nos invités, parce que la première année, on avait Jean-Pierre Mocky comme invité, qui nous avait dit « Je viendrai si je ne suis pas mort », et il est mort... au mois d'août, 4 mois avant. Après, on a eu la Covid, on a dû annuler. Après, on a eu aussi un Thierry Jamin qui devait venir du Pérou pour nous parler justement de son rapport avec Marilyn, des nominations humaines de Nazca. Avec la Covid, il a été
bloqué,
assigné à résidence. Et après, l'année dernière, on avait déjà Monsieur Jean-Claude Bourret, mais sa femme a eu la Covid. Et puis cette année, c'est le genou qui... Donc voilà.
Il y a peut-être une malédiction, il y a peut-être quelque chose à gratter derrière, non ?
L'année prochaine, on invite Jean Gabin.
Ah bah, exactement.
Ben oui, c'est un scoop. Voilà, j'ai tout dit. Donc, il y aura un film qui sera projeté à 18h dans l'espace Lénard.
Mais donc, je rebondis quand même, Jean-Claude Bourret, donc, il ne sera pas là, mais...
Il sera en communication, on pourra lui poser des questions, il répondra
après,
en direct.
Après le visionnage du film sur les ovnis voyagent dans le temps.
Voilà.
Ce qui fait quand même deux énigmes dans une seule question.
Oui, c'est ça. C'est exactement... Mais on n'a pas peur de un peu d'ambition, quoi.
Oui,
un peu d'ambition.
Oui, oui.
Désolée. Donc, ça, c'est pour samedi. De l'audace.
De l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace.
Et dimanche ?
Alors dimanche, on remet ça, c'est-à-dire que les dédicaces se feront. Il y aura encore des
lectures
d'auteurs, voilà, des rencontres donc avec ces peintres, avec les éditeurs. Et puis,
il y aura la remise des livres à tous les enfants qui viennent avec leur chèque. Ils viennent choisir les livres dans le salon.
Oui, les lauréats.
Et dans les lectures publiques, à 11h30, il y aura Marilyn Elk. Et à 14h, il y aura Votre serviteur, où j'aurai l'occasion de parler d'un projet d'écriture en cours sur le triangle de la Burle.
Avec... aussi Marilyn Elk.
Tout à fait. Je coécris avec elle cet ouvrage qui est passionnant.
Justement, Marilyn. Marilyn, c'est la première fois. Donc vous ne faites pas partie du cercle des auteurs
Ardéchois.
Vous m'entendez ?
Oui, je suis là.
Ouais.
Donc non, pas pour l'instant. Je suis sympathisante.
Mais vous allez pour la première fois participer à cette édition. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel salon ?
Alors déjà, je suis très heureuse de participer à ce prestigieux salon. C'est mon premier grand salon. Donc moi, je débute dans la profession. Ce que j'attends, c'est des rencontres, des échanges avec les personnes qui viendront au salon et aussi les auteurs, les enfants également. Et faire connaître mon livre, bien sûr, L'idole sacrée de Nazca, qui relate mon enquête au Pérou.
Mais parlez-nous un petit peu de ce livre. Donc vous venez avec deux livres, Didyme, c'est votre précédent livre, sur Saint-Jean-Baptiste et Jésus, où vous imaginez qu'ils étaient frères jumeaux.
Voilà. Donc Didyme, qui est un essai qui va être réédité en version augmentée prochainement, et le livre donc L'idole sacrée de Nazca, qui est paru il y a quelques mois aux éditions Saint-Merlin, qui relate de cette enquête au Pérou. Alors parce que moi je suis ufologue, c'est-à-dire que j'étudie le phénomène OVNI, et en juillet 2017, je me suis rendue au Pérou, à Nazca, pour enquêter sur cette fameuse affaire des non-humaines péruviennes. Alors ces êtres, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ils ont trois doigts, ils ont un crâne allongé, ils ressemblent étrangement à la race extraterrestre dite des petits gris. C'est pour ça que je suis allée enquêter.
Des
petits gris. Voilà, une race extraterrestre de petite taille, de couleur grise, avec des yeux en amande et des crânes allongés, dolichocéphales. Donc je suis allée là-bas, j'ai rencontré les protagonistes de cette histoire. C'est-à-dire Thierry Jamin et Mario, le pilleur de tombes, celui qui a découvert les momies. Et j'ai vu et touché ces momies. Et il y en a une en particulier qui m'a beaucoup marquée.
Ça, c'est le point de départ. Alors là, on est dans la fiction, pardon, ou dans l'essai ?
Alors, on est là, avec les momies, on n'est pas du tout dans la fiction et dans l'essai, c'est bien réel. Il y a des analyses qui ont été faites, des analyses carbone 14, ADN, il y a des corps, hein, des corps qui ont été momifiés dans la terre de Diatomée. Alors, la terre de Diatomée, c'est de la diatomite, c'est une algue qui est fossilisée. Et donc, ils ont râpé la pierre, ils ont fait de la terre, ils ont plongé les corps à l'intérieur. Ça a déshydraté les corps, ça a permis leur conservation. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment réel. C'est pas de la fiction.
Mais ce qui est réel, ce sont les principes de conservation. Juste, alors je me permets parce que justement, vous le savez vous-même, hein, c'est un sujet qui n'est pas... encore débattu, oui, mm-hmm. Tout à fait controversé, c'est-à-dire que bon, je vous laisse la parole. Peut-être justement, ce sera l'occasion pour les gens de venir discuter de ce sujet
au salon
avec vous, parce que
et on pourra faire un débat un jour.
Et pourquoi pas vous-même, donc Pierre-Antoine Courrouble, qui vous-même, vous êtes ufologue ?
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Moi, je me suis versé dans ce domaine par défi, parce que l'éditeur des éditions de la Calade, Didier Benoît, était venu me voir après mon écrit sur la bête du Gévaudan. Il m'avait dit, écoute, j'aimerais faire un travail comme tu as fait sur la bête du Gévaudan, mais sur le mystère du triangle de la Burle.
Alors, donc, parlez-nous, tous les deux, puisque vous êtes Marilyn et Pierre-Antoine, dans cette aventure du mystérieux triangle de la Burle.
Oui, alors je sais pas, Marilyn, si tu veux donner des chiffres que tu as en tête.
Alors oui, moi je pourrais dire qu'il y a quand même 167 crashs d'aéronefs orphées de guerre dans ce fameux triangle qui est une zone qui est délimitée entre le Pilat, le Velay, le Sillon rhodanien et les Cévennes ardéchoises. Mmh. Il y a quand même 6 départements qui sont englobés dans ce triangle qui n'est pas un triangle. Mais bon, on l'a appelé ainsi. On a aussi donc de nombreuses victimes et des observations d'ovnis. On en a 413.
D'accord.
Et des observations d'ovnis, je tiens à le préciser, parce que c'est le travail de contrôle. Et sur ce plan-là, j'aime beaucoup collaborer avec Marilyn, parce qu'elle est très rationnelle. Et donc, elle veut écarter tout risque de confusion, tout ce qui peut être... parce qu'on en a vu, hein, des vidéos où c'était Starlink, où c'était des fontaines... des thaïlandaises, des lampes thaïlandaises, donc des lanternes. Donc tout ce qui pouvait prêter à confusion avec Vénus alignée avec Jupiter et autres a été vraiment traité, évité, on les a enlevés. On a gardé que les témoignages les plus solides. Et moi, ce qui m'a troublé dans cette affaire, je tiens à dire, j'ai jamais vu d'OVNI de ma vie. Mais j'ai rencontré des gens qui m'ont troublé, des pilotes, d'Air France, des ingénieurs, des militaires, des gendarmes, des employés de préfecture, et leur témoignage est extrêmement troublant. Et donc tout cela sera dans le livre, c'est un livre d'enquête de terrain, mmh. sur lequel on ne se prononce pas. On laissera au lecteur le soin de faire sa propre opinion sur ce qui se passe dans cette zone.
Donc ça, c'est un ouvrage qui est en cours et j'ai lu qu'il allait être préfacé précisément par Jean-Claude Bourret.
Tout à fait. Jean-Claude Bourret nous fait l'amitié de nous parrainer. C'est plus facile d'être parrainé par lui quand il faut écrire un livre que de le faire venir dans un salon.
Mm-hmm. C'est un ufologue aussi. Hein.
C'est un des papas.
C'est un ufologue. Alors, nous parlons de Jean-Claude Bourret, de vous à mes côtés et de Marilyn au téléphone. Un triangle, peut-être. Un triangle assez mystérieux. Mais bon, c'est une sortie qui sera prévue en librairie au printemps. C'est ça, aux éditions.
Juin 2024, aux éditions La Calade.
Très bien, merci. Vous avez également, Marilyn, j'ai lu une autre actualité avec la création d'un service d'aide à la publication, c'est cela ?
Oui, tout à fait, pour les auto-éditeurs, donc avec la création de leurs livres et la mise en ligne sur la plateforme KDP Amazon. Donc ça sera aux éditions Samerlin. Donc voilà, ils peuvent me contacter via les éditions Samerlin.
Parce que ça, c'est intéressant, justement, le rôle des éditeurs. Au salon, il y aura des éditeurs, hein, il y aura La Calade, cette édition.
Oui, il y en a 5 éditeurs. J'ai pas en tête leur nom.
5 éditeurs, parce que quel est justement le lien, quel est le travail qui est fait entre les éditeurs et les auteurs ardéchois? Parce que j'ai pu voir, alors je ne sais pas, vous allez me dire, hein, j'ai pas les chiffres, mais que beaucoup quand même d'éditions se font en auto-édition.
Bah, c'est la tendance forte, parce que bah, c'est le cas du travail que fait Marilyn. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent, mais qui ne trouvent pas un éditeur. Et en fait, il y a des solutions. La solution, c'est... Bon, alors, certains n'aiment pas Amazon, je peux comprendre sur un plan philosophique, mais force est de constater qu'avec cet outil, tout auteur qui peut mettre en ligne son livre, voit son livre distribué bon, bah, sur la terre entière, mmh. et à un coût extrêmement intéressant. Et Amazon peut éditer 3, 4, 1 livre à la limite, ou 999, c'est pareil au même. Ce qu'il faut juste, c'est maîtriser la technique. Et c'est là où Marilyn Elk entre en jeu, de pouvoir aider à la mise en forme de l'ouvrage pour qu'il rentre dans la matrice d'Amazon, pour que le livre sorte, soit publié. Ce qui est assez bluffant, c'est qu'on reçoit le livre 48 heures ou 72 heures après l'avoir commandé. Mmh. Et c'est vraiment très rapide.
Donc l'idée, ce n'est pas forcément de court-circuiter les éditeurs régionaux.
On ne court-circuite pas les éditeurs ni les libraires. Il se trouve que les libraires peuvent toujours avoir ces livres, puisque les auteurs peuvent aller les déposer en dépôt. C'est mon cas, c'est le cas d'Alain, c'est le cas de beaucoup d'auteurs du Cercle. Il y a un vrai drame actuellement. Les gens lisent de moins en moins, mais ils écrivent de plus en plus. Alors, c'est tant mieux. Les gens écrivent, donc ils sont créatifs. Par contre, il y a un problème de concurrence. Quand on sait qu'il y a 700 livres qui sortent tous les mois, rendez-vous compte la place qui reste pour les écrivaillons, artisans, artistes ardéchois.
Il y a 10 000 éditeurs en France. 10 000. Donc, 10 fois de trop.
Donc, c'est évident que la solution que propose Marilyn est une solution qui est bien souvent une bouée de secours pour des auteurs qui ont tapé à la porte de plusieurs maisons d'édition. C'est le cas de Roland Ours. Roland Ours avait une bande dessinée merveilleuse sur l'Ardèche, en couleur, qui raconte toute l'histoire de l'Ardèche. Et il a essayé plusieurs maisons d'édition qui ont tous décliné parce que les temps sont difficiles. Ben, son livre sort là le mois prochain aux éditions Saint-Merlin, donc qui est de l'auto-édition via Amazon.
Et qui est corrigé par moi-même.
Et qui est corrigé.
et je voudrais donner aussi un chiffre, parce que les gens l'ignorent très souvent, c'est le pourcentage que touche un auteur sur la vente de son livre. C'est 8%. 8%
au maxi.
Oui.
Donc c'est moins.
Il y a 92% qui part dans l'édition, la distribution, on ne sait pas trop quoi, mais là, 8%.
Ouais. Donc finalement, ce que vous soulevez, c'est tout de même un problème de l'ordre de l'édition. Parce que, Alain, vous disiez tout à l'heure, il y a 10 000 éditeurs, il y en a 10 fois trop.
Oui.
Et en même temps, vous semblez... alors, c'est pas prôner, c'est pas ça, mais accompagner les auteurs éditeurs qui seront eux-mêmes des micro-éditeurs de leurs propres livres.
Oui, voilà.
Finalement, ça ne fait que multiplier le problème.
On propose une autre voie, voilà.
À compte d'auteur.
Une autre trajectoire, pas une de plus.
Oui, oui.
Voilà, parce que
Je ferai un parallèle entre le monde de l'édition et le monde du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma professionnel, il relève de l'industrie. Mmh. Et il y a un cinéma émergent, tout le monde peut filmer de nos jours avec une station de montage, avec même un smartphone. Et on avait créé en Ardèche, avec le regretté Moki qui en était le président, un festival du film
artisanal et audacieux.
Tout à fait, qui n'existe plus, mais c'est bien dommage. Il a failli s'appeler Festival du film sans le sou. Mmh. Mais dans le monde de l'édition, c'est pareil.
Ça, c'est bien du Moki. Hein.
Oui. Donc, au niveau de l'édition, c'est exactement pareil. Il y a les majors, alors ceux qui ont la chance de jouer en première division, bah, ils sont édités, puis ils sont dans toutes les librairies, chez Hachette, Gallimard, etc. Et nous, bah, je dirais, il y a les petits joueurs qui peuvent être très talentueux, qui peuvent même être des génies, je dirais, en termes d'écriture, qui ne trouvent pas forcément leur... Parce qu'il y a beaucoup d'entre-gens hein, pour aller dans ce monde-là. Si vous avez des relations, vous êtes édité. Je suis un peu placé pour le savoir. J'ai fait 6 maisons d'édition. Mais là, bah, vous êtes édité vous-même, par vous-même. Vous pouvez diffuser dans vos cercles et aller dans des salons qu'on organise, de mettre sur Internet, de faire vivre vos ouvrages sur Facebook et autres dans les réseaux sociaux. Et je puis vous dire qu'au final, on en vit mieux.
Ce sont des sujets passionnants. Malheureusement, Il est plus que l'heure, on a déjà dépassé, dans la joie et la bonne humeur, et pour le plus grand plaisir de Sylvain, qui non, n'est pas là pour me dire qu'il faut faire plus court, mais enfin, tout de même. oui, sujet passionnant, et vous venez de le dire finalement, les salons du livre, c'est aussi une manière de mettre directement en lien les autrices et les auteurs avec leur public. Donc je vous invite, puisqu'il y aura près de 80 auteurs, plus de 70 auteurs et autrices qui seront présents donc samedi et dimanche à l'espace Liénard à Aubenas. Allez-y, allez les rencontrer. C'est toujours l'occasion de vous faire votre propre idée, d'être au plus près de la littérature qui vit, qui est en train de se faire. Donc les 2 et 3 à l'espace Liénard.
Entrée gratuite.
Merci beaucoup Alain d'Autriche de le préciser. Donc merci à vous trois, Alain d'Autriche, Pierre-Antoine Courrouble et Marilyn Elk d'avoir bien voulu être nous parler de cet événement. Merci à vous trois.
Merci à vous.
Merci.
Merci. Merci Sylvain d'avoir réalisé cette émission. Restez sur Fréquence 7 puisque à 15h c'est le Télex, vos infos au 04 75 93 30 25. Faites-nous part de vos événements. À 17h c'est la rediff de l'onde curieuse, à 19h éclectrique et à 20h la playlist de mon pote. Ciao.